Voilà, bienvenue à la quatrième étude en relation avec notre thème général, l'Église et moi. Nous avons parlé de différence dans la première étude, de variété. Nous avons parlé d'engagement, d'implication, de don lors de la deuxième étude. Nous avons parlé d'accueil lors de la troisième étude. À chaque fois avec le souci de réentendre ensemble quelques enseignements bibliques, et puis, comme notre titre général le dit, de discerner des conséquences concrètes, pratiques. L'Église et moi là-dedans, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux avoir comme action, comme place. Ce soir donc, les enfants, je vous propose trois points très, très simples, j'espère, à repérer. Tout d'abord, ce que la Bible dit, un point assez long, différents textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui nous rappellent ce que la Bible nous dit des enfants. Un deuxième point, plus proche de notre thème, leur place dans l'Église. Et un troisième point, et moi là-dedans. Quelques suggestions concrètes, pratiques, et bien sûr, chacun pourra compléter. Tout d'abord, ce que la Bible dit des enfants, un tour d'horizon, avec des implications pratiques que vous sentirez venir. Première remarque que je propose, ils sont voulus par Dieu, donnés par Dieu. Un texte, il y en aurait beaucoup, beaucoup, un texte, Genèse 4, 25. Adam connut sa femme, et l'enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné. Donc c'est un des tout premiers récits de la Bible. C'est Dieu qui a voulu la famille, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et les enfants sont là parce que Dieu les a créés et parce que Dieu nous les donne. Deuxième remarque, ils font partie du peuple dont Dieu prend soin. Ils sont protégés par Dieu qui prend soin de son peuple, et nous trouvons souvent des expressions qui disent « Soyez sans crainte parce que je prends soin de vous et de vos enfants. » J'en cite un, dans Genèse toujours, à la fin du livre, Genèse 50, verset 21. C'est Joseph qui parle et dit « Soyez sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Et les enfants sont ainsi régulièrement cités comme faisant partie du peuple dont Dieu prend soin, du peuple que Dieu veut accompagner. Troisième point que je vous propose, et c'est un point triste, ils sont fragiles, avec peu de défense, et quelquefois proie facile de la méchanceté des hommes. Et j'en arrive à Exode. Exode chapitre 1, verset 17. « Les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. » Donc c'est merveilleux de la part des sages-femmes, mais vous connaissez l'histoire, on ne va pas la relire ce soir. Les versets qui précèdent nous parlent de la fragilité des enfants et de l'horrible méchanceté de ceux qui utilisent la fragilité des enfants pour faire avancer des projets destructeurs. C'est une proie bien facile. Et d'autres ont voulu s'attaquer à des peuples, à des nations, en détruisant les enfants. Nous avons bien sûr dans le même verset l'exemple de courage des sages-femmes qui ont osé braver les ordres. Les enfants sont fragiles, quelquefois proie facile de la méchanceté des hommes. Quatrième remarque, ils sont inclus dans les grandes fêtes, dans les temps forts de l'Alliance. Et là, je vous propose soit d'écouter, soit de rechercher dans votre Bible un texte à peine plus long, Deutéronome 29, où nous comprenons, c'est un exemple parmi d'autres, que les enfants étaient vraiment inclus aux grandes fêtes et aux moments solennels de l'histoire du peuple de Dieu. Deutéronome 29, verset 8. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, l'immigrant qui est au milieu de tes campements, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu vas entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu avec le serment qu'il a fait et que l'Éternel ton Dieu conclut aujourd'hui avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est un des textes qui nous dit que les enfants devaient être là, hein, dans un moment très solennel où l'alliance de Dieu était marquée. Certaines lectures théologiques poussent ces versets plus loin que nous le faisons nous, en considérant que les enfants font vraiment partie du peuple de Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie, les enfants dans l'Église. Mais quand même, remarquons dans ce texte que les enfants sont cités parmi tous ceux avec qui Dieu établit, rappelle son alliance. Vous tous, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes, vos enfants, vos femmes et les migrants seront là. Donc les enfants ne sont pas du tout dans la salle de jeu, ne sont pas du tout oubliés parce que les grands ont quelque chose d'important à vivre. Les enfants sont inclus dans les grandes fêtes, dans les temps forts de l'Alliance. Exemple, Deutéronome 29. Cinquième remarque. Dieu choisit de se révéler aussi à des enfants. Exemple. Oui, vous avez deviné. Samuel. 1 Samuel 3, 10. Je ne lis qu'un verset de tout un chapitre que l'on aime relire. 1 Samuel 3, 10. La troisième fois, quand Dieu appelle Samuel. L'Éternel vint et se présenta. Il l'appela comme chaque fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit. « Parle, car ton serviteur écoute. » Avant, Samuel a couru vers Élie pour lui demander pourquoi Élie l'appelait. Et la troisième fois, Samuel a bénéficié des remarques d'Élie qui a compris que Dieu devait vouloir parler à ce tout jeune enfant. Donc il est vraiment très jeune, au point que Élie était étonné et qu'il a dû lui-même faire un effort pour comprendre que Dieu s'adressait à cet enfant. Autre exemple, j'en donne un ou deux cette fois-ci, 2 Rois 22, je ne vais pas tout lire non plus, simplement rappeler qu'un tout jeune roi a fait partie des bons rois. 2 Rois 22, Josias était dans le groupe des moyens, avait 8 ans. C'est bien les moyens, je pense. Avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yedida, fille de Adaya de Botkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Le roi Josias fait partie de ceux qui ont été remarqués comme étant particulièrement fidèles. C'est avec lui qu'il y aura la remise en ordre du temple, la redécouverte de la loi, etc. Un troisième que je cite, David. Alors, il était très probablement nettement plus âgé que Samuel, mais quand même, en relation avec notre réflexion, notre thème, il représente ceux qui sont considérés comme trop petits. Très clairement, quand Samuel est venu auprès d'Isaïe pour lui dire que Dieu l'envoyait pour oindre un de ses fils, ils sont passés l'un après l'autre, puis ils sont arrivés au dernier, et il n'y avait toujours pas celui que Samuel devait oindre. Et eux avaient l'impression qu'ils avaient fait le tour. Ben oui, ils n'avaient oublié que le petit. 1 Samuel 16, verset 11. Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il pas d'autres jeunes gens ? Il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel lui dit, envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas ici avant qu'il ne vienne ici. Il en manquait un, et aux yeux d'Isaïe, ça gênait pas la fête, ça gênait pas le processus. C'était que le petit. Donc on n'a pas l'âge, je crois pas qu'on a l'âge. mais il était assez petit pour représenter ceux que nous pourrions ne pas considérer inclus, ne faisant pas partie de ceux qui sont concernés par des choses importantes.
On ne sait pas s'il était d'âge moyen.
On ne sait pas, je n'ai pas recherché plus. Adolescent probablement. Oui. Adolescent probablement. Et là, je glisse un texte du Nouveau Testament, Matthieu 11, 25, en pensant dans ce cinquième sous-point, Dieu se révèle aux petits, à Samuel, à Josias, à David. Je glisse Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Aux enfants, aux petits. Jésus loue son Père parce que Dieu a voulu que la vérité, que l'Évangile soit accessible, non pas par l'élite. J'ai quelquefois du mal à méditer ce verset. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché. » Il faut lire jusqu'au bout. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché cela à l'élite et que tu as choisi de le révéler à tous, aux enfants, aux petits. » Donc Jésus honore son Père dans cet élan, ce cri de joie qui est rapporté dans Matthieu 11, 25, parce que Dieu a voulu se révéler aux enfants. Or, nous en sommes les zéro témoins. On a eu encore récemment le baptême d'une fillette de 9 ans. C'est franchement pas vieux. Et puis, certains d'entre nous savent par expérience que Dieu nous a révélé des choses quand nous étions enfants. Et j'en redirai un mot tout à l'heure aussi. C'est extrêmement important que nous n'oublions pas que les enfants comprennent les choses importantes. Donc, cinquièmement, Dieu choisit de se révéler aux enfants. Sixièmement, Dieu choisit de se révéler par les enfants. Psaume 8, verset 3. « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force en face de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Tu as choisi de te révéler par les enfants. » Cité par Jésus dans Matthieu 21, Matthieu 21, verset 15 à 17. C'est la fin de l'évangile. Jésus arrive à Jérusalem. C'est la grande fête des rameaux. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Matthieu 21 m'a aidé à reméditer le psaume 8. C'est un exemple très clair. Jésus cite le psaume 8 devant ses enfants qui crient « Hosanna !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David !» Et les chefs religieux ne sont pas moins que indignés par ce mélange pas bien respectable entre les choses importantes et ces enfants qui crient dans le temple. Jésus répond, Dieu a choisi de se révéler par les enfants. Septièmement, les enfants doivent être l'objet de nos soins et de notre éducation. Deutéronome 6, pour ceux qui ont une Bible pas loin, mais c'est pas très long, vous pouvez choisir d'écouter, bien sûr. Deutéronome 6, 4, appelé quelquefois avec les premiers mots en hébreu le Shema Israël, qui était assez clairement le Jean 3, 16 de l'époque. C'était le verset clé qui était très connu et auquel il revenait régulièrement. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et dans les chapitres qui suivent, on a d'autres textes qui nous disent « Devant l'importance des stèles et des objets de mémoire, quand les enfants diront « Qu'est-ce que cela ?» tu répondras « Du temps de Moïse, du temps de nos pères, etc. » Et là, il est question d'inculquer à nos enfants les vérités importantes, en particulier « L'Éternel, notre Dieu, est un. » Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les enfants doivent donc être l'objet de nos soins et en particulier de l'éducation qu'ils doivent recevoir. Proverbe 22:6. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Instruis l'enfant. C'est pas perdu. Proverbe 22:6. Un autre proverbe qui dérange quelquefois. Je crois que c'est 29. Qui parle de bâton. Mais je le mets positivement dans le paragraphe. Les enfants méritent nos soins et notre éducation. 29:15. Le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. On peut parler longuement des symboles et du sens des mots et des expressions et du bâton, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans ce soir. Ce qui est clair, me semble-t-il, j'ai osé citer ce verset, c'est que le garçon ici, l'enfant, sont dans la volonté de Dieu de ceux qui doivent bénéficier d'un accompagnement qui les éduque, qui les conduit, qui les corrige. Ma compréhension du bâton, c'est que c'est en partie symbolique. Je n'ai jamais eu de bâton à la maison. Mais qu'il est bel et bien dans les proverbes et qu'il me dit, nous dit, qu'il n'y a pas d'éducation possible sans contrainte. Je pense. Oui, une question, remarque.
C'est le verset, chapitre 23, verset 13.
C'est l'autre, merci. Tu as trouvé le chapitre. Chapitre 23, verset 13. N'épargne pas la correction aux jeunes garçons. Quand on connaît un peu Dieu et qu'on a lu un peu sa Bible, ça ne peut pas être autre chose que positif. Oui ? C'est pas pasténaire. C'est une évidence. Et j'ai demandé pardon à mes enfants quand j'ai corrigé en passant mes nerfs. Ça m'est arrivé. On ne doit jamais corriger parce que ça nous fait du bien, nous. Mais on doit corriger parce qu'on veut le bien de l'autre. N'épargne pas, ne prive pas. Ça se veut positif.
22:15 aussi.
Oula, je vois que vous avez vos repères. 22:15. Oui, la stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton et la correction l'éloignera de lui. Ouf, il y a de l'espoir. Oui, dans ma Bible, à côté de ces versets-là, il y a espoir pour tous, à certains endroits. Le stupide n'y comprend rien, mais Dieu veut se révéler. On a beaucoup cela dans les proverbes. Donc, j'insiste, c'est une évidence pour moi que ces versets sont positifs. N'épargne pas l'enfant, ne le prive pas du cadeau d'être corrigé, parce qu'il mérite d'être guidé. Il mérite que tu prennes soin de lui. Il mérite que tu l'enseignes. Et donc, mon titre général, c'est pas le bâton. C'est ils doivent être l'objet de nos soins et de notre éducation. Éphésiens 6:4, que mon fiston me cite de temps en temps. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant, selon le Seigneur. Parallèle Colossiens 3:21. C'est le même thème. Nos enfants, les enfants, méritent d'être corrigé, d'être éduqué, d'être au bénéfice de ce qui va contribuer à leur bien. Voilà. D'autres compléments, remarques, et beaucoup de sourires. Merci d'avoir déjà complété avant que je le dise. Les enfants méritent d'être au bénéfice de l'éducation et de ce qui les équipe pour leur vie. Huitième point. Ils peuvent être plus sages que les grands. Ecclésiaste 4, 13. Un enfant sage vaut mieux qu'un roi vieux, un roi vieux qui ne sait plus écouter ce qu'on lui dit. C'est l'éloge de l'humilité, de l'écoute, mais au passage, ça nous parle des enfants. Un enfant indigent, j'ai lu trop vite tout à l'heure, un enfant indigent, mais sage, vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter ce qu'on lui dit. Donc un enfant peut être déjà instruit, déjà équipé pour mieux penser, mieux réagir, mieux agir qu'un vieux roi qui a perdu l'aptitude ou qui ne pratique pas en ce moment même l'aptitude à écouter et à tenir compte de ce qu'on lui dit. Neuvièmement, Dieu a choisi de venir jusqu'à nous en étant un enfant. Quand même. Il aurait pu faire autrement. Le Messie aurait pu arriver comme Enoch est parti, par exemple. Il aurait pu ne pas connaître la condition d'enfant. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mais il a voulu connaître la condition d'enfant. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Matthieu 1, Luc 1 et 2, etc. Dieu a choisi de venir à nous en étant enfant. En relation avec notre thème, et en méditant Ésaïe 9, c'était extrêmement étonnant que le grand Messie annoncé par Ésaïe dans une période où on ne savait plus où trouver de l'espoir, c'est très étonnant qu'Ésaïe annonce un enfant. Et une fois de plus, on est bousculé parce que ceux que l'on pourrait considérer comme pas très importants pourraient bien être quelquefois ceux qui sont particulièrement utilisés par Dieu pour que son plan avance. Dixième remarque, Jésus les a donnés en exemple. Matthieu 18 qui va être relu dans les groupes de maison bientôt. Matthieu 18, versets 1 à 6. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ça, c'est le contexte d'orgueil très naturel qui a conduit Jésus à donner un enseignement qui touche les enfants. Le contexte, c'est cette question très triste des disciples qui demandent à Jésus qui est le plus grand. Réponse de Jésus, verset 2. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. » Parallèle, Marc 7, Luc 9. Ça a marqué les disciples. On le retrouve dans les différents évangiles. La réponse de Jésus est très étonnante. La conclusion très solennelle, il aurait mieux valu pour quelqu'un qui aurait méprisé un petit qu'on suspende à son cou une meule de moulin. Waouh ! Jésus nous enseigne ici à quel point les petits, les enfants, ne sont pas du tout oubliés dans le royaume de Dieu, ne sont pas du tout pas à leur place. Au contraire, ce sont ceux qui se demandent qui est le plus grand, qui ne sont pas à leur place. Jésus leur dit, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme eux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc les enfants que l'on pourrait considérer petits et pas tout à fait à leur place, sont donnés en exemple par Jésus comme étant tout à fait du genre de ceux qui rentrent dans le royaume. Onzième et dernière remarque de ma part. Jésus a enseigné qu'il faut les accueillir. Matthieu 19, verset 13. « Des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Il leur imposa les mains. Donc à nouveau, les disciples ont une attitude fausse et Jésus corrige. Voilà, avant de réfléchir à la place des enfants dans l'Église, est-ce qu'il y a quelques versets que l'un ou l'autre voudrait ajouter, une idée supplémentaire ou à la dizaine que j'ai répertoriée? Ils sont voulus par Dieu, ils font partie du peuple dont Dieu prend soin, ils sont hélas proie facile, ils sont inclus dans les grandes fêtes, les temps forts de l'Alliance. Dieu choisit de se révéler aux enfants. Dieu choisit de se révéler par les enfants. Ils doivent être l'objet de nos soins, de notre éducation. Ils peuvent être plus sages que les grands. Dieu a choisi de venir à nous en enfants. Jésus les a donnés en exemple. Jésus nous enseigne qu'il nous faut les accueillir. D'autres remarques, versets.
Dieu se révèle par les enfants. C'est la guérison du chef militaire syrien.
Ok, on peut ajouter, à part les enfants, tout à fait. On a le nom de cette... Non, on n'a pas. La servante. On n'a même pas son nom. La petite, la servante. Merci d'ajouter, à part les enfants, la servante de Naaman. Oui, c'est un très bel exemple. D'autres remarques?
Je ne me souviens pas le verset, mais en totalité, mais si vous ne redevenez comme un de ces enfants, la suite, je ne la connais pas.
Alors, c'est Matthieu 18. Peut-être dans une autre, peut-être un passage qui suit, ou peut-être dans une autre traduction. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas. Donc, c'est Matthieu 18. J'ai lu 1 à 4. Oui, si, c'est le verset 3, je pense, que tu cites dans ta mémoire. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer. D'autres souvenirs?
J'avais un souvenir, mais j'ai du mal à trouver le verset, mais c'est dans les Proverbes. Mm-hmm. Ça parle de un qui a son carquois qui est rempli de flèches.
Ah, ça c'est Psaume.
Et il dit que ses enfants sont comme des flèches.
Alors, ça va, à mon avis, ça va avec le premier point. Voulu par Dieu, donné par Dieu, sont une bénédiction. Le psaume 127 dit qu'ils sont une bénédiction. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, etc. Verset 3, voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Voilà, donc je pense qu'on est proche de ce que j'ai proposé comme premier point. Ils sont une bénédiction. Ce n'est pas des personnes qui font du bruit, la définition biblique d'un enfant. Ils sont une bénédiction. Ils sont donnés par Dieu, voulus par Dieu. Oui, Marie-Josette ?
Il y a un verset qui commence à dire « Père, vous n'étiez pas vos enfants ». Mais la suite, c'est de peur qu'il ne se décourage. C'est un verset que j'aime bien.
Oui, alors c'est pas celui que j'ai cité tout à l'heure. C'est un autre.
Dans les Proverbes aussi, dans la fin.
Ok, je vais chercher des parallèles à Éphésiens 6 que j'ai lu tout à l'heure. D'accord ? Vous pourrez encore compléter, mais j'ouvre la deuxième partie. Les enfants dans l'Église. Aujourd'hui, là, maintenant. Première remarque. Donc, je reprends là où j'ai terminé. Jésus nous enseigne qu'il nous faut les accueillir, en particulier dans l'Église. L'Église est un lieu d'accueil de tous. Jésus nous demande d'aller par tout le monde et au-delà de toutes les nations, de tous les peuples. Il y a aussi, comme, reprenons tous les textes, j'en ai lu un tout à l'heure de l'Ancien Testament, où il est dit, les princes, les chefs de famille, les hommes, les femmes, les enfants, les migrants. Donc les enfants sont dedans. Donc il nous faut penser aux enfants quand nous pensons l'Église, c'est clair. Je cite Jésus encore, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Ça s'applique aussi aux enfants. Et puis, noir sur blanc, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, exhortation minimum, incontournable, nous devons accueillir les enfants, nous devons penser aux enfants, nous devons désirer leur permettre de trouver leur place dans la vie de l'Église. Deuxième enseignement que je rappelle, la promesse est aussi pour eux. Acte 2, 39, on peut relire ce verset qui a été compris un peu différemment par les uns ou les autres, mais qui fait partie, je crois clairement, de notre réflexion de ce soir. Acte 2, je lis 38 à 39. Pierre, le jour de la Pentecôte, a répondu aux moqueurs en particulier. Il a prêché, mais le point de départ, c'est une réponse à ceux qui se moquent, qui pensent que ces personnes ont probablement bu un peu trop d'alcool pour parler dans différentes langues. Et Pierre dit non, c'est ce qui était annoncé par le prophète Joël, et c'est le grand jour de la bénédiction. Dieu a choisi la Pentecôte pour ce jour. Le Saint-Esprit est répandu abondamment parce que ce Jésus que vous avez crucifié, c'était vraiment le Messie. Verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc la promesse est aussi pour les enfants. Et c'est quoi la promesse ? Verset 38. « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Or certains ont lu, je pense, en regroupant trop, de façon trop rapprochée certains mots, on pourrait lire « Repentez-vous ». Ligne suivante. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On peut rattacher tout ça au baptême. Nous comprenons, à la lumière de l'Écriture, que le baptême n'est que le symbole du premier verbe. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Voilà la condition. Et ensuite, vous recevez le pardon de vos péchés et nous comprenons que ce qui est déterminant, c'est la repentance, pas le signe de la repentance qu'est le baptême. Vous recevrez le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour qui ? Pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Qu'est-ce que me dit ce texte ? Qu'un enfant peut se repentir et peut recevoir, peut être baptisé, je suis heureux que nous le pratiquions, et peut recevoir le Saint-Esprit. S'il croit, s'il change de vie, il se repente. Et s'ils le manifestent par le baptême, ils reçoivent la promesse, comme les autres. Et, coup d'œil à la fin du chapitre, ils font partie de ceux que le Seigneur ajoute à l'Église. Acte 2, 47. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et si on relit Acte 2, 39, dans ceux qui étaient sauvés, il y a des enfants. Donc, ils font partie, ceux qui se repentent et croient, font partie de ceux que le Seigneur ajoute à l'Église. Transition vers le point suivant, appartenance et appartenance. Est-ce que les enfants peuvent faire partie de l'Église ? Ça dépend quel sens on donne au mot. Mais il me semble important, avec tout ce qu'on a relu, et ce n'est bien sûr qu'une petite partie, tout ce qu'on a relu comme texte ce soir, que l'on ait bien en tête que les enfants font partie de l'Église au sens d'un groupe, au sens d'une communauté qui se réunit pour écouter Dieu, pour mieux connaître Dieu. Tous les textes nous disent qu'il était important que les enfants soient au bénéfice de l'enseignement qui était donné. Exemple, il est juste de dire que des enfants font partie de l'église de l'ABN. Ça dépend ce qu'on veut dire, mais dans beaucoup de cas, ça marche. Par exemple, on imagine un culte en commun entre plusieurs églises, et on regroupe les enfants pour l'école du dimanche, et on demande qui sont les enfants qui font partie de l'ABN, quels sont les enfants qui font partie de l'église d'abord, quels sont les enfants qui font partie de l'église de la rue des Taillis. Est-ce que c'est théologiquement un peu faux ?
L'expression « faire partie », oui.
Oui, mais non, ils font partie de l'église. Je n'ai pas dit qu'ils sont membres au sens du membre du corps d'un Corinthiens 12. Mais dire que les enfants font partie de l'église, c'est tout à fait juste. Il est plus important d'avoir des idées claires que d'avoir un vocabulaire rigide. On sait bien ce qu'on veut dire. Quand je dis les enfants de la bonne nouvelle, je ne dis pas que tous les enfants qui fréquentent les activités de la bonne nouvelle sont automatiquement des membres du corps de Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Tout simplement pour dire, n'ayons pas peur de toutes les expressions qui parlent des enfants comme faisant partie de l'Église. Et non seulement n'en ayons pas peur, on va y réfléchir dans les groupes, mais soignons ce que cela veut dire. Les enfants qui fréquentent l'Église font partie de l'Église, une fois que j'ai dit ça, on peut le dire comme ça. Pas au sens où les membres de l'Église font partie de l'Église de la Bonne Nouvelle, donc ce n'est pas le même sens. Mais il ne faut absolument pas qu'on se prive du sens que l'on pourrait appeler sociologique, certains l'ont proposé, ou familial, ou tout simplement, ils sont physiquement là. Ils font partie du groupe. Des remarques là-dessus ? Avis contraire ? Abstention ?
Je voulais dire une chose, mais oui. Je ne sais pas où placer.
Vas-y, vas-y.
Ça me dérange. Je veux dire, dans la tradition juive, à la Pâque juive,
oui.
Il devait dire aux enfants l'explication, les signes, les symboles,
oui.
Ce que ça voulait dire. Enfin, pour que ça ne s'éteigne jamais,
oui.
Pour que ça passe de génération en génération, la Pâque juive.
Alors, c'est tout à fait juste. C'est un complément à ce qui était, je ne sais plus... ils font partie verset, point 7 chez moi, ils doivent être l'objet de nos soins et de notre éducation. J'ai lu quelques versets du Deutéronome, on pourrait lire des versets d'Exode qui nous disent que la Pâque entre autres était un moment où les enfants devaient être au bénéfice de ce qui leur fait connaître l'histoire du peuple, et au-delà de l'histoire cela leur fait connaître qui est le vrai Dieu. Bien sûr.
Bien sûr. On est rempli.
Bon. Donc Jean-Marc conclut en disant le livre du Deutéronome en est rempli.
Ouais. Donc, tu le diras à tes enfants.
Ouais. D'accord. Donc c'est un devoir de l'Église, c'est un devoir du peuple de Dieu, aujourd'hui c'est un devoir de notre Église, que de faire connaître la vérité, que d'enseigner, que de répéter. Que de conduire, que d'équiper, que de permettre aux enfants de mieux connaître, de bien connaître Dieu. Sans oublier, on en a parlé encore récemment, que tout cela s'applique bien évidemment à la famille aussi, et peut-être en premier. Nous devons dans nos familles répéter ces choses et les inculquer. Mot à mot, Deutéronome 29, c'est tu l'inculqueras à tes enfants. Mais l'Église est bel et bien partenaire de l'éducation. Plus précisément, j'en arrive au « et moi dans tout ça ». Et moi, je commence avec le « laisser venir » de Jésus, « laissez venir à moi les petits-enfants ». Exhortation solennelle et corrective, un jour où les disciples ne le faisaient pas. Et je pense que quelques dangers nous guettent. Alors, si on commence avec les disciples et ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'est difficile à dire parce que c'est négatif, mais ils les ont trouvés dérangeants. Et on peut trouver les enfants dérangeants. Et ils peuvent nous déranger. Mais Jésus enseigne clairement en situation que nous devons les accueillir, même si les choses se passent un peu différemment. Très concrètement, dans la salle du haut, je me souviens un culte de Noël, avoir osé exhorter les grands que nous sommes à ne pas être trop embêté parce qu'il y avait des bruits de crayon. Parce qu'il me semblait bon que les enfants soient là. Et c'est ce qui avait été prévu avec toute l'équipe, et c'était très bien qu'ils soient là. Mais ça peut un peu déranger. C'est du concret, ça. Mais il nous faut les accueillir, même si il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles à gérer quand nous voulons vraiment intégrer les enfants à notre vie d'église. Deuxième danger, moi je crois, mais j'attends vos réactions dans quelques minutes, que nous sommes souvent en danger de les sous-estimer. J'ai quelquefois, certains le savent, été embêté en essayant de me souvenir ce que je comprenais à l'âge, quand j'avais l'âge de ceux des enfants à qui je parlais. J'ai souvent pratiqué ça en colo. Je dis, tiens, t'as un groupe d'enfants de 7 ans. Et j'essayais de trouver des repères dans ma propre vie pour essayer de me souvenir ce qui rentrait dans ma tête à l'âge de 7 ans. Et en général, quand j'ai fait cet exercice, j'ai eu honte de moi. Parce que je me suis rendu compte que je sous-estimais, mais clairement, les petits bouts de choux, et justement pas seulement, les personnes qui étaient devant moi. Qu'est-ce qu'on comprend à 7 ans? Et la Trinité y pense, bien avant. Et Romains 7 y pense. Moi j'ai vu un enfant en particulier pleurer en me disant, papa, ça limite le cercle en arrivant. Papa, je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Elle était en pleurs. Je dis, ok, t'es en plein de Romains 7, on va en parler. T'es pas vieille, promis. Moi je crois qu'on peut vraiment sous-estimer les enfants et que c'est dommage. Je me souviens d'un grand cadeau que mon oncle Joe m'a fait quand j'allais sur le stand biblique avec lui, et j'étais petit haut. Et je me vois encore, pourquoi je vous le dis, pas pour raconter une histoire, pour dire que ça m'a marqué, parce que c'est rare. Je me vois encore dans la vieille estafette. Mon oncle Joe à gauche, oui quand même, moi à droite. Et Joe me disant qu'il était vraiment encouragé que des enfants viennent et que c'est important qu'on s'engage dans l'œuvre de Dieu. Et il m'a parlé comme un grand. Mais je m'en souviens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça m'a marqué. Ça veut dire que c'est pas aussi habituel que ça, peut-être. Et moi j'ai une question pour nous. Quand est-ce qu'on a parlé pour la dernière fois de choses très importantes avec un enfant? J'espère qu'il n'y a pas trop longtemps. Mais je nous invite à le faire plus. À dépasser l'intérêt. C'est déjà merveilleux, hein? On y reviendra tout à l'heure dans les questions encore plus concrètes. Leur manifester de l'intérêt, les écouter, leur parler, c'est très bien. Mais dépassons ce qu'ils ont fait à l'école la semaine passée. Et comment ça se passe avec les copains. C'est très bien, mais dépassons cela. Voilà ce que j'avais à cœur de dire. Le danger qui nous guette de sous-estimer la capacité qu'ont les enfants à parler de choses très sérieuses et très spirituelles. Je suis gâté d'avoir accompagné Jeanne. Et il y a un autre enfant en route. Vous en entendrez parler dans quelques semaines. Et c'est merveilleux. Mais promis, les discussions ne sont pas du tout au ras des pâquerettes avec des enfants, dans ce cas-là, de 8-9 ans. Autre remarque pour l'Église aujourd'hui, pour nous, tout ce qui nous dit que nous devons dans l'Église prendre soin les uns des autres, et tout ce qui dans la Bible nous dit que Dieu prend soin des enfants quand il prend soin de son peuple. Et là, il y a quelque chose de délicat, donc je le mets sur la table comme quelque chose de délicat en nous invitant à chercher l'équilibre. Nous ne sommes pas les parents de tous les enfants, mais nous ne devons être indifférents à aucun d'eux. Voilà. Et à mon avis, là, on a quelque chose de difficile qui nous a quelquefois gênés. Je ne dois pas prendre la place des parents, des enfants qui sont dans l'Église, mais je ne dois pas non plus me dire qu'ils se débrouillent. Ce sont eux les parents. Donc que Dieu nous aide à trouver l'équilibre avec ce souci de contribuer dans l'état d'esprit d'un Dieu qui prend soin des enfants en prenant soin de son peuple, que Dieu nous aide à trouver la façon de prendre soin des enfants sans nous retrouver dans la situation anormale où nous nous permettons ce qui n'est pas de notre ressort. Ça marche ? J'ai l'impression. Quoi d'autre ? Comment ? Quoi dire comme exemple ? Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Parler, c'est sûr. Il nous faut honorer les enfants en leur parlant. Les écouter, c'est sûr. Les aider à parler, du coup, eux. Prier pour eux. Prier avec eux. Voilà des choses que l'on peut faire à coup sûr sans prendre la place des parents. Je suis peut-être trop optimiste à coup sûr, ça dépend ce qu'on dit. Voilà ce que l'on doit apprendre à faire sans prendre la place des parents. Attention à ne pas avoir peur des enfants qui peuvent nous déranger. Attention à ne pas sous-estimer les enfants, mais soyons heureux de nous dévouer pour leur offrir du temps et du temps de parole de qualité. Il y a des choses que vous voulez ajouter de façon concrète concernant ce que l'on peut faire, les dangers à éviter en tant qu'Église quand nous accueillons les enfants. Oui, Adeline.
Sur le dernier point, là, oui. De ne pas être les parents, mais de quand même pas être indifférent. Mm-hmm. Moi, qui donc n'ai pas d'enfant, mais qui intervient facilement auprès d'enfants d'autres personnes, je trouve que ce qui est très aidant, c'est quand on a la confiance des parents. Mm-hmm. Quand on connaît les parents, quand on est bien amis. Parce que là, justement, ça permet d'intervenir auprès de leur enfant. On sache tout en... Enfin, eux, ils savent qu'on ne va pas prendre leur place, quoi. Donc, c'est important d'avoir la confiance des parents pour pouvoir intervenir de manière saine.
Merci, Adeline.
En sa place et puis en étant utile quand même auprès de vous.
Merci, Adeline, de compléter le point concernant l'équilibre à trouver quand nous voulons prendre soin des enfants sans prendre la place des parents, et d'ajouter l'importance d'une bonne relation avec les parents, et un mot-clé que tu utilises, la confiance. Tu nous dis, je répète, si on a la confiance des parents, alors on est dans de bonnes conditions pour assumer cette mission d'accompagnement, de soins, d'éducation auprès des enfants. Ok ? Merci. D'autres remarques ? Ou autre exemple concret peut-être.
La liberté de parler, de vivre notre vie chrétienne avec des enfants qui ne sont pas les nôtres.
Mm-hmm. Oui. Tu nous redis qu'il nous faut pouvoir le faire. Hein, la liberté de parler, t'as ajouté vivre, que j'ai peut-être pas assez évoqué ce soir. Toute une façon de prendre soin des enfants, c'est de vivre des vies chrétiennes qui les encouragent. Et moi, je dois beaucoup à des personnes qui ne le savent pas, que je n'ai pas revues, qui sont parties ailleurs, mais qui ont marqué mon enfance et mon adolescence par leur vie, dévouée, heureux, fonceur, à l'écoute des autres. Je pense à des personnes en particulier qui, d'après ma mémoire, n'ont pas pris le temps de s'asseoir avec moi, mais ont vécu devant moi. Donc une façon de prendre soin des enfants, c'est d'avoir la liberté, je cite Claude, de parler, mais aussi je m'accroche à un mot que tu as utilisé, de vivre devant eux.
C'est basé sur la confiance, comme disait Adeline. Mm-hmm. Nous, on a accueilli pendant une douzaine d'années des enfants qui n'étaient pas les nôtres. Mm-hmm. Mais ça, les parents étaient d'accord qu'on prie avec ces enfants, notamment au repas, mm-hmm. entre autres, on parle de Dieu et on n'a jamais eu de conflit. Mm-hmm. Mais c'est vraiment important ce que vient de dire Aline, parce que quand on est sur la même longueur d'onde, on peut avancer ensemble.
Merci de redire l'importance de la confiance entre parents et autres personnes dans l'Église qui peuvent prendre soin des enfants, et de nous inviter à cultiver la relation avec les parents. J'ajouterai en t'écoutant la notion de complémentarité, et on doit autant aimer les parents que les enfants, et on doit autant vouloir faire du bien aux parents qu'aux enfants, et donc on ne va pas s'occuper de leurs enfants modestement dans leur dos et en les oubliant eux. Bon, merci. Adeline.
Alors, c'est pas une remarque sur la troisième partie, mais sur la première. C'est
oui, possible. Bien sûr.
Dans le souci de vouloir vraiment accueillir les enfants, et tu as évoqué plusieurs fois qu'il y a certains textes qui sont interprétés autrement par d'autres.
Oui.
Mais moi, j'aurais quand même au moins dit pourquoi on ne baptise pas les enfants. Quoi. Je veux dire, c'est quoi notre position en tant qu'Église?
Ok. Donc, merci. Oui, on peut le redire. Donc, j'ai dit 2-3 fois que dire qu'un enfant fait partie de l'Église parce qu'il est parmi nous et qu'on veut en prendre soin, ça ne veut pas dire qu'on mélange tout et que pour nous il fait partie de l'Église en tant que membre du corps de Christ. Pour être plus clair, en dire plus, un enfant qui n'est pas né de nouveau, un enfant qui n'est pas converti, un enfant qui n'a pas vécu la repentance, n'est pas encore chrétien. Et donc, on ne le baptise pas. Nous baptisons ceux qui ont vécu la nouvelle naissance et ceux qui ont dit leur attachement à Jésus-Christ.
Oui.
Je suis
étonné, je veux dire, bon, je donne un exemple de la librairie Certitude, mais comment on peut faire une Bible pour les enfants à leur niveau, ou le livre de Noé pour enfants, bande dessinée, ou Jonas, ou des trucs avec des choses très compliquées à comprendre, et ils arrivent à le faire comprendre, à le retranscrire, à le réécrire, ou à les mettre au niveau des enfants, pour que les enfants comprennent des choses très compliquées d'une manière très simple. Quoi.
Okay.
Les BD, les trucs qu'ils font, les bibles pour enfants, les jeux, tout, c'est quelque chose de... C'est étonnant. Quoi.
Je ne savais pas trop où tu allais dans la première seconde, mais tu es émerveillé.
Oui, franchement, voilà. C'est étonnant.
Tu es étonné de ce que certains, devant ce que certains arrivent à faire, certains et certaines, pour mettre entre les mains des enfants des livres, des ouvrages qui sont particulièrement bien adaptés. Donc tu es étonné, oui, positivement. Wow. Oui, soyons reconnaissants pour les outils qui sont préparés pour que l'enseignement biblique soit plus facilement reçu par les enfants. Tous les efforts faits par l'école du dimanche, faits par les éditeurs, les auteurs d'abord, et les éditeurs pour que les enfants et les moniteurs, monitrices d'école du dimanche aient des outils les plus adaptés possibles aux enfants. Adeline et Jean-Marc.
Jean-Marc. Tout à l'heure, tu disais qu'on sous-estime souvent les enfants et qu'ils sont capables de comprendre beaucoup de choses et qu'il ne faut pas rester au ras des pâquerettes. Moi, j'ai envie de dire aussi, entre nous, ne restons pas au ras des pâquerettes.
Merci, Adeline.
C'est ce que ça a éveillé en moi quand tu as dit ça. Quoi.
On a le droit de sortir un peu du thème, et encore, pour témoigner de ce qu'on a ressenti. Merci beaucoup, Adeline, de nous inviter, en rebondissant sur ce que j'ai dit concernant les enfants, en disant ne les sous-estimons pas et ne parlons pas que de leur dernière journée d'école avec eux, ce qui est déjà bien, mais parlons de choses profondes et importantes. Cri du cœur de Adeline, appliquons cette même remarque entre nous et osons parler de choses importantes et profondes entre nous. Et dépassons les quelques nouvelles rapides. Merci beaucoup, Adeline. Jean-Marc.
Oui, à propos du baptême des enfants, je crois que l'approche, l'approche protestante, pas catholique, mais protestante, qui nous est quand même plus proche, c'est la théologie de l'alliance, c'est-à-dire que l'alliance dont bénéficient les parents se prolonge chez les enfants. Et donc, ils devront ensuite confirmer ce signe d'alliance qui est posé sur eux. Et c'est ce qu'on appelle la confirmation. Donc, c'est une manière d'accueillir les enfants très, très forte. Mais à l'inverse, dans les églises réformées, on s'occupe, à mon avis, beaucoup moins des enfants que dans nos milieux, où là, on a développé, parce qu'on est peut-être plus conscient du choix qu'ils doivent faire un jour de se donner au Seigneur, ben, du coup, on s'occupe plus d'eux et on les accueille au concret dans la vie de communauté beaucoup plus que dans l'église réformée. À titre d'exemple, dans une église évangélique, c'est évident qu'il y a des classes d'école du dimanche, qu'il y a même des pièces consacrées à cet usage si on a le bonheur d'avoir des locaux. Tandis que dans une église réformée, c'est pas si courant que ça, pour ce que j'en ai connu. Donc c'est intéressant de voir que dans la théologie, il y a un accueil. Mais une fois qu'ils sont dans la maison, je dirais, ils sont peut-être moins pris en compte que chez les évangéliques, où on ne va pas dire tout de suite qu'ils sont partis.
disent, on attendra qu'ils le choisissent eux-mêmes. Et donc là, le baptême, il a ce sens, comme tu l'as dit, mais chez les personnes qui baptisent les bébés, il a le sens de l'accueil que nous traduisons par la présentation des enfants.
Oui, merci beaucoup Jean-Marc, je crois qu'il a attrapé, donc c'est bon. Une chose qui me vient en t'écoutant, c'est qu'au-delà des rites qui manifestent, qui sont censés manifester l'accueil, il y a notre état d'esprit qui fait qu'après on va les accueillir vraiment dans le quotidien et tout au long de l'année, où on pourrait ne pas beaucoup faire attention à eux, malgré des rites qui sont faits pour eux.
Oui. Moi, je me rappelle qu'il y a plusieurs années, il y avait un groupe d'Américains qui était venu ici, je crois pendant une semaine ou quelque chose comme ça. Et bien, le jeune, je ne sais pas quel âge il avait, 18, 20 ans ou un peu plus, et bien, lui, il a dit qu'il était converti depuis l'âge de 5 ans.
Oui, c'est possible. Je fais partie de ceux qui pensent qu'à cet âge-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Mais bien sûr, à 5 ans, on peut comprendre énormément. On peut comprendre... Ouais. L'importance de la repentance.
Ils ont été convaincus.
Oui. Marie-Joseph.
Dans les choses profondes des enfants, ce qui nous vient, c'est Jésus avec qui discutait avec les docteurs, pourtant pendant le pèlerinage.
Oui. À 12 ans, c'est bien ça, on le sait. Hein.
Bon, c'était Jésus, mais oui. Ça veut dire aussi qu'un enfant de 12 ans peut être passionné de Dieu et.
Tout à fait. Donc Jésus à 12 ans est un exemple d'un enfant. Alors à 12 ans, c'est une évidence.
C'était l'âge légal religieux, oui. La majorité religieuse.
Qu'on peut beaucoup comprendre. Et Jésus était Jésus, comme tu l'as dit. Mais du coup, il a étonné les chefs religieux devant son discours et son souci de l'œuvre de son Père à cet âge-là.
On ne peut pas faire abstraction de l'évolution de la société. Les enfants, aujourd'hui, sont matraqués avant d'aller à l'école maternelle, ils sont déjà devant l'écran de la télévision et ils sont influencés par des scènes plus ou moins violentes, plus ou moins excitantes. Et s'il n'y a pas une contrebalance, je ne sais pas comment on peut dire, claire dans l'Église de Jésus-Christ, hein, aussi bien dans la famille que dans l'Église, ça ne peut pas aller très loin. Et on a à faire face à un effet de société qui n'existait pas il y a une ou deux générations, mais qui existe bel et bien, et la conscience et le cœur des enfants est marqué par ça. Donc c'est difficile d'avoir une voix claire et une influence, parce qu'il y a déjà d'autres influences qui sont rentrées dans le cœur des enfants bien avant que des fois nous on leur parle. Et ça, il faut l'avoir vraiment en tête aujourd'hui.
Il y a toute une ambiance, toute une culture que les enfants peuvent subir. Ce qui est étonnant, c'est que la parole de Dieu n'ait pas plus eu un impact depuis des siècles pour corriger toute une partie de notre regard sur les enfants, puisque Dieu les respecte beaucoup et complètement. Et certains nous disent aujourd'hui qu'il serait temps qu'on respecte plus les enfants. Oui, en tant qu'Église, donnons l'exemple et soyons de ceux qui considèrent les enfants comme des personnes, qui ne sont que des enfants, mais qui sont des personnes, et avec qui on peut parler, entre autres, des choses spirituelles, en tout cas les respecter comme personnes à part entière.
Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres sont en train de le faire.
Oui.
Mais avec l'influence de la société d'aujourd'hui.
Oui.
Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête.
Oui. Trois mots tout simples que je vous laisse pour qu'on les médite. Accueil, accompagnement, amour. Les trois A. Voilà. Accueil de tous, donc des enfants. Faire beaucoup d'efforts pour les accueillir, les intégrer, proposer des activités, on le fait. Mais nous le devons. C'est normal d'accueillir les enfants. C'est normal de considérer qu'ils font partie de l'Église. Je mets tout ça sous accueil. Et à mon avis, on fait déjà beaucoup. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il serait temps que l'Église apprenne à accueillir les enfants. Mais j'ai essayé de faire un tour d'horizon de plusieurs exemples bibliques et de plusieurs enseignements bibliques. Accueil. Accompagnement. Être des exemples. Ne pas les sous-estimer. Oser parler. Les inviter à regarder à Jésus-Christ. Donner des outils. Prier. Et si on accepte une formule négative de temps en temps, accompagnement et non pas surveillance. L'idée, c'est pas qu'ils se tiennent tranquilles, les enfants, mais c'est qu'ils... C'est bien qu'ils se tiennent tranquilles, on m'avait compris. Mais on veut plus que ça en tant qu'Église. On veut les accompagner. On veut les mener vers le Seigneur. Et on ne veut pas simplement qu'ils nous laissent faire nos affaires. Et puis le dernier mot qui résume tout, mais j'ai eu à cœur de le rappeler ici, amour. En un mot, si on veut faire du bien aux enfants, il faut qu'on imite le Maître qui les aime. Un texte touchant parmi tous ceux que j'ai relus tout à l'heure de Jésus, il est dit qu'il a pris les enfants, il les embrassa et parle avec eux. Ou il les prend dans ses bras. On a plusieurs signes comme ça de Jésus qui n'est pas du tout en train de simplement enseigner qu'il faut faire prendre soin des enfants. Il les prend lui dans ses bras. Donc on voit l'amour de Jésus pour les enfants. Et si nous apprenons, si nous demandons à Dieu de nous renouveler dans notre amour pour tous ces enfants qui trottent dans l'Église, on va forcément faire de mieux en mieux. L'amour va nous conduire à faire mieux. Ça ne nous empêche pas de cogiter, de travailler, de passer du temps, faire des efforts. Mais finalement, le mot-clé avec lequel j'avais à cœur de terminer, c'est l'amour. Il nous faut aimer, aimer vraiment ces enfants. Accueil, accompagnement, amour. Une autre remarque ? Non ? Je vous propose un court temps de prière. Il est 9h10, on a encore un peu de temps. Pour que quelques-uns disent dans la prière à Dieu ce que nous pouvons souhaiter, lui demander en relation avec notre désir de prendre soin des enfants. Si quelqu'un veut bien commencer, je terminerai ce bref temps de prière.